Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e numéro de Sans langue de bois, votre émission politique sur les ondes de Transistor. La semaine dernière, Tatiana Fauconnet vous proposait le 2e numéro de Sans langue de bois, paroles de militants, consacré à l'Europe, avec autour de la table 3 jeunes militants, respectivement du PS, du FN et du Parti de gauche. Cette semaine, c'est une nouvelle édition du grand journal politique de la rédaction que je vous présente, remplaçant exceptionnellement Marie-Ève, vous l'aurez remarqué, et c'est Thomas qui, comme d'habitude, vous dévoile le programme de l'émission. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une de l'actualité politique cette semaine, le feuilleton des élections de la présidence de l'UMP, tous les jours un rebondissement et c'est loin d'être fini. Prenant du recul avec ses annonces quotidiennes, Mathilde Ferrez analyse les conséquences et les enjeux de la crise actuelle que traverse le premier parti d'opposition de France. L'enquête de la semaine réalisée par Colline Allier sera consacrée aux violences faites aux femmes à l'occasion de la journée de lutte du 25 novembre et du manifeste des 313 femmes violées publié dans le Nouvel Obs. François Hollande annonce un plan pour endiguer le phénomène, analyse de la situation. Enfin, et puisque c'est bientôt Noël, vous verrez que François Hollande est la star de son ton bien particulier. Sans oublier la chronique mensuelle de Jérôme Bestic, Vue d'Europe, la rubrique Droit de suite et deux éditoriaux, cette semaine proposés par Louis Dubost et Amos Reichmann.
Depuis le dimanche 18 novembre, qui devait voir naître le nouveau leader du parti, ça n'arrête pas à l'UMP.
Comme dans une comédie, on passe de rebondissement en rebondissement.
Sauf que le comique de situation dans une pièce de théâtre est drôle parce qu'il finit par trouver une issue. À l'UMP, il n'en est rien. Le dénouement se fait longuement attendre.
Par conséquent, on ne rit plus. On rit même jaune d'une situation de crise politique ponctuelle qui traduit en réalité une crise politique plus globale. Retour sur ces deux dernières semaines agitées et ses conséquences sur la vie politique française.
Gaz de schisme à l'UMP. Un sujet réalisé par Mathilde Ferrez. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Vote, Copé. Victoire, Fillon, défaite, Juppé, militant, Cocoé, référendum. Depuis le dimanche 18 novembre, on ne sait plus où donner de la tête.
Oui, les annonces s'enchaînent sans qu'on comprenne bien ce qui se trame. Alors essayons de rendre plus clair, c'est un broglio dont la fin, au vu des événements, ne pourra être révélée que dans un prochain numéro. Rendre plus clair les élections à l'UMP, telle est votre mission, Mathilde, et vous n'avez pas le droit de la refuser.
Good luck, Jim. Ça,
c'est du lancement, Mathilde, quand même. Hein.
C'est vrai. Dès le soir de l'élection officielle, ça s'annonçait mal. Les deux candidats, Jean-François Copé et François Fillon, se déclaraient vainqueurs. Le lundi 19 novembre, on n'a plus qu'un nom, celui du maire de Meaux, et un chiffre, 98, qui représente les voix de différence entre les deux candidats.
Mais la défaite passe mal, évidemment, chez les fillonistes.
D'autant que les votes de certaines fédérations auraient été oubliés dans le comptage des voix. Alors Fillon crie à l'aide et en appelle à Alain Juppé le jeudi 22 novembre afin qu'il joue les médiateurs. De nouveau, c'est un coup d'épée dans l'eau. Samedi 25 novembre, on ignore toujours qui est le nouveau chef de l'opposition. Dimanche soir, une semaine après l'élection officielle donc, on a enfin une petite idée du vainqueur. La commission de recours proclame Jean-François Copé gagnant avec 952 voix d'avance.
Mais cette issue aurait été trop simple.
Eh oui. Le mardi 27, un nouvel acteur entre en scène, Nicolas Sarkozy. Il propose l'idée d'un référendum interne afin de préserver l'unité de sa famille politique, a-t-il affirmé. Dès le lendemain, le nouveau président de l'UMP s'y refusait, jugeant que la constitution par les fillonismes d'un groupe autonome à l'Assemblée rendait caduque cette proposition.
Voilà où nous en sommes actuellement, au moment où nous enregistrons. À vous, Cognac Jay.
Jean-François Copé serait, pour le moment, le vainqueur déclaré. Mais quelle victoire! Une victoire à la Pyrrhus, pourrait-on dire. Parce qu'indéniablement, le nouveau chef de l'UMP ne sort pas indemne de cette histoire. Sa crédibilité, comme celle de son concurrent, est bien entachée. Et une question, à qui profite le crime ?
La crise de ces dernières semaines n'est évidemment pas sans conséquences. Le principal parti de l'opposition, acteurs, politiques et militants, en ressortent exsangues. Ils ont en effet l'impression d'une défaite qui n'en finit plus depuis celle de mai 2012. Certains préfèrent alors se tourner vers de nouveaux visages, voire d'autres partis, plus porteurs d'espoir. Les principaux bénéficiaires se divisent en trois camps. les non-alignés de l'UMP, le tout jeune parti de Jean-Louis Borloo, l'UDI, et le Front National de Marine Le Pen. À l'UMP d'abord, tous ne sont pas perdants, n'est-ce pas Mathilde ?
Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire, par exemple, n'avaient rejoint aucun des concurrents. Bien leur en a pris. Ils sont désormais compatibles avec le nouveau président, sans être brouillés avec son rival. Par conséquent, il y a de fortes chances pour qu'ils obtiennent une place de choix dans le nouvel organigramme à mettre en place en janvier. Leur absence d'engagement les a fait apparaître aux yeux des militants comme des vecteurs d'apaisement. C'est donc d'une double popularité qu'ils jouissent désormais. Ils ont l'attention du chef et des militants. Ils peuvent désormais regarder 2017 avec plus de confiance.
Ce ne sont pas les seuls à sortir renforcés de cette affaire, Mathilde. Jean-Louis Borloo a affirmé sur France Inter le lundi 26 novembre que, depuis que l'UMP connaît la crise qu'elle traverse actuellement, quelques 6000 nouveaux adhérents ont frappé à la porte de son parti.
Lors de l'inauguration du siège de son parti le mardi 27 novembre, Jean-Louis Borloo s'est senti pousser des ailes. Afin de prouver que sa coalition est crédible et déjà au travail, il a aussi promis que les premières investitures pour les municipales de 2014 devraient être annoncées dans les semaines qui viennent. Enfin, il n'a pas hésité à appeler les Français à rejoindre son tout jeune parti en considérant que l'avenir nous appartient.
Un peu plus à droite, au Front National, on se gargarise également du nombre croissant d'adhérents.
Oui, le parti de Marine Le Pen recueillerait en temps normal environ 150 adhésions par jour. Grâce à la crise Fillon-Copé, il en aurait reçu environ 400 dès le lundi 19 novembre et plus de 600 le mercredi.
On le voit, les conséquences pour l'UMP peuvent être redoutables. Une perte de son personnel politique et de ses militants qui conduirait alors à l'explosion définitive du parti. Mais au-delà de cette crise ponctuelle à l'UMP, le conflit auquel nous venons d'assister n'en dirait-il pas plus sur la réalité du principal parti de la droite française et sur l'état de la démocratie représentative en France aujourd'hui ?
Certes, Jérôme, c'est Jean-François Copé et François Fillon que nous avons vu s'affronter ces derniers temps. Mais ces deux hommes ne sont que les représentants d'un clivage qui, à droite, perdure depuis un petit moment.
Peut-être faut-il le rappeler, Thomas, que l'UMP créé en 2002 est le fruit de l'union du RPR et de l'UDF, deux tendances de droite au fond idéologique quelque peu différent. Le RPR chiracien prolongeait l'héritage gaulliste en promouvant la nation et l'autorité de l'État. L'UDF giscardien se voulait, en revanche, plus libéral en matière économique et sociale. L'UMP a évincé cette diversité, et cela d'autant plus avec l'arrivée en 2004 de Nicolas Sarkozy à la tête de la coalition.
À partir de ce moment-là, c'est lui qui a fait consensus. Et il a tout fait pour que ça dure. On a adopté le style et l'homme sans se poser la vraie question, celle du fond idéologique. Et quand l'homme a disparu, eh bien, la ligne de démarcation a réapparu.
Mais avec de nouvelles nuances, celle apportée par Nicolas Sarkozy. Désormais, l'opposition a lieu entre une droite décomplexée, héritage direct des années Sarkozy, et de la stratégie Buisson pour la campagne présidentielle de 2012, et un gaullisme social à la Fillon. Les militants semblent avoir davantage choisi le legs sarkozyste, par nostalgie de l'homme, probablement.
Par conséquent, on ne voit pas bien ce que défend l'opposition en ce moment.
Exactement. D'autant que le discours du nouveau président de l'UMP se plaît à rester dans le champ de l'anecdote. On ne connaît que trop son discours sur le pain au chocolat et le ramadan. Alors, une opposition à plat, c'est plutôt gênant pour la vie démocratique. Surtout que le mandat de François Hollande vient de commencer. On a alors besoin d'échanges dans l'hémicycle, de vrais échanges pour des lois représentatives.
Et c'est aussi important que ce tissu politique se recrée vite, parce qu'une crise de ce type ne se restreint pas à l'UMP.
C'est un processus qui affecte plus globalement tout le champ politique, de gauche à droite. En effet, le spectacle de fraude et tricherie encourage l'idée, déjà très présente dans l'électorat, du tous pourri, propice à l'abstention ou au partage avec les extrêmes de la révolte contre les partis de gouvernement. Privés d'un suffrage démocratique large, ce sont alors ces partis de gouvernement qui perdent beaucoup. Ils deviennent les élus par défaut, et non plus ceux qu'on a élus parce qu'on y croyait, mais parce qu'on n'y croit plus.
Gaz de schisme à l'UMP, un sujet réalisé par Mathilde Ferrez.
Nous parlions à l'instant de la crise que traverse en ce moment l'UMP. Dernièrement, on l'a dit, Nicolas Sarkozy est sorti de son mutisme post-présidentiel pour donner son avis sur la situation que traverse actuellement son parti et tenter de la régler, donnant ainsi raison en quelque sorte à Amos, qui dans son dernier éditorial consacré au sujet parlait justement du fantôme de Nicolas Sarkozy qui planait derrière ses élections à la présidence de l'UMP.
Alors Amos est avec nous, puisque vous le savez maintenant, nous accueillons à chaque numéro deux éditorialistes aux sensibilités différentes, voire radicalement opposées, pour que toutes les opinions s'expriment sans langue de bois.
Bonjour Amos.
Bonjour Thomas.
Alors, un petit peu désespéré par la politique française, me semble-t-il.
Désespéré, mais dans la politique, on trouve toujours le réconfort.
Ben, j'espère bien.
La politique française est d'une tristesse immense. Est-ce la 5ème République ? Est-ce le passage au quinquennat ? Est-ce plus profondément le pathétique destin des démocraties modernes ? Le fait est que les coqs pensent avant tout à leur gras plumage. La politique est devenue carrière individuelle, plus que recherche concertée du mieux-être commun. Ce qui apparaît dramatiquement à l'UMP ne fait que refléter une bien triste réalité politique. Le nombril prime la pensée, la sagesse s'efface derrière le médiocre visage individualiste. Combien de couleuvres intellectuelles la soi-disant écologiste Cécile Duflot a-t-elle dû avaler pour pouvoir jouir de son petit marocain ministériel ? Quelle tragique compromission l'avocat Gilbert Collard a-t-il dû accepter pour siéger au Parler Bourbon aux côtés de la petite fille du Borgne ? Il y a de quoi désespérer de la politique, de ces hommes et de ces femmes qui pensent à leur petit avenir bourgeois plus qu'à l'horizon d'une société, d'un monde à construire. Où retrouver l'espoir, la force de se battre ? Comment retrouver le courage de croire tout simplement la capacité des hommes à changer le cours des événements ? En ces temps de grands désenchantements, c'est une merveilleuse découverte littéraire qui m'a redonné espoir. C'est un texte perdu retrouvé, un faux devenu vrai, une chasse qu'on croyait infinie qui semble finir en apothéose. La chasse spirituelle, texte mythique et qu'on croyait perdu d'Arthur Rimbaud, aurait été retrouvé. Mieux, le texte de la chasse spirituelle, qui était apparu comme un faux en 1949 et qui fut considéré comme tel jusqu'à aujourd'hui, serait en réalité un vrai Rimbaud. C'est ce qu'une édition à paraître le 5 décembre semble révéler. Le 5 décembre, c'est donc bien un nouveau texte d'Arthur Rimbaud qui va paraître, la chasse spirituelle 140 années après sa date supposée d'écriture. Quel rapport, me direz-vous, entre cette réapparition d'un poème de l'enfant de Charleville et la politique ? Eh bien, c'est une question de jaillissement, de révélation. Rimbaud est ce chasseur spirituel capable d'ouvrir de nouveaux horizons, d'inventer sans cesse de nouveaux mondes. Ce contemporain de la commune n'aspirait-il pas à changer la vie ? Et qu'en 2012, encore, des textes d'Arthur Rimbaud puissent réapparaître comme magiquement, n'est-ce pas le signe que le naufrage n'a pas tout emporté ? L'espoir n'est pas mort. Dès lors, cessons d'accepter l'inacceptable, d'accepter les mots trompeurs, les paroles en l'air qui ne font que perpétuer la domination. Il y a quelques semaines, le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, parlait d'une révolution copernicienne qu'aurait accompli le gouvernement. Révolution copernicienne. Une révolution dans les mesures visant les entreprises. Drôle de conception de la révolution que celle de l'ancien bras droit de Dominique Strauss-Kahn. En effet, pour le ministre, cette révolution copernicienne consiste en la mise en place d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Drapeau déployé, point levé. Un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi destiné aux entreprises. Voilà la révolution copernicienne à laquelle l'époque aurait le droit. De quoi marquer la grande histoire. Encourager la compétitivité des entreprises en vue de stimuler l'emploi ? Quelle grande idée, monsieur le ministre ! Quelle audace ! Quelle révolution copernicienne ! En somme, pour Moscovici, rien de mieux pour résoudre la crise que de reprendre les recettes qui l'ont justement rendu possible. Encourager toujours plus la compétitivité des entreprises au détriment de la protection des salariés, défendre la concurrence, oublier les travailleurs, les hommes et les femmes. La révolution moscovicienne n'est rien d'autre que la perpétuation du modèle libéral qui nous a conduits dans le mur. Bref, l'imagination au pouvoir, ce n'est pas pour aujourd'hui, surtout lorsqu'à l'autre bout du gouvernement, c'est la bonne vieille nationalisation de Florange qu'Arnaud Montebourg nous propose, 20e siècle. Quand tu nous tiens, ce sont bien ces carcans économiques, ces œillères qui empêchent d'imaginer et de construire le monde du nouveau millénaire. Mais le gouvernement n'a pas le monopole de l'esprit borné. En effet, dans un autre registre, on continue d'entendre, venu d'une certaine droite nationaliste, le son des trompettes de la haine, de la peur fétide, d'une angoisse qu'on peut imaginer pathologique et qui dit la tentation de l'emmurement, du refus de l'autre, des portes à jamais fermées. Pour certains de nos concitoyens, en effet, une France forte ou une plus grande France, c'est selon, serait avant tout une France débarrassée de ceux qu'ils considèrent comme une menace intérieure. La communauté musulmane, qu'on accuse sans preuve, parfois même sur cette même onde, de soutenir à demi-mot les violences terroristes commises au nom de l'islam. Une communauté musulmane accusée de tous les maux du pays et qui subit attaques et menaces. Les cimetières musulmans sont profanés, les discriminations demeurent la réalité quotidienne pour de nombreux musulmans français. Alors, quand on entend certains agiter le drapeau du temps du rejet contre la communauté musulmane française, on ne peut que s'inquiéter. S'inquiéter des conséquences de ces paroles, cette quête d'un bouc émissaire, d'un ennemi de l'intérieur défini du seul fait de son origine et qui peut conduire à la plus arbitraire des violences, témoignant de la plus funeste des fermetures d'esprit. Évidemment, pour ces avocats de la peur, les révolutions du monde arabe sont avant tout le creuset du djihadisme, du salafisme, comme s'ils ne pouvaient pas accepter l'audace du soulèvement de peuples libres révoltés après des décennies de dictature de l'autre côté de la Méditerranée. C'est qu'il est bien difficile d'apprécier l'essor de la liberté, de saluer l'inattendu, d'embrasser le parti de la révolution qui vient. Car de la révolution copernicienne de Moscovici au harangue raciste du Front National Bleu Marine, ce ne sont que mots creux, délires et fausses solutions qui nous sont assénés. Plus que jamais, il est temps d'imaginer d'autres discours, d'autres solutions, de faire le pari de la légèreté, de la fraternité, de l'altérité. Seul moyen de construire l'Europe, de faire émerger la Méditerranée. D'inventer le monde. Pour cela, il faut de l'audace, de l'invention et un peu de courage. Il y a quelques mois, un candidat fort sympathique à la présidentielle ne nous proposait-il pas d'emmener l'Europe sur Mars ? La tragédie est qu'il est de bon ton de rire d'un homme politique qui se propose d'élargir l'horizon. Certes, il est d'autres rives, aurait écrit Arthur Rimbaud.
Merci Amos pour ce billet où tu nous rappelles que le poète avait cette injonction, trouver une langue, et selon toi donc, en politique plus que jamais, c'est l'imagination qu'il faut retrouver, et ça, sans langue de bois.
On passe maintenant à l'enquête de la semaine consacrée aux violences faites aux femmes à l'occasion de la journée de lutte contre celle-ci du 25 novembre et du manifeste des 313 femmes violées publié dans le Nouvel Obs. Une enquête réalisée par Colline Allier. Une femme décède tous les 3 jours de violences conjugales en France. Une personne est violée toutes les 8 minutes. Ce sont des chiffres que l'on connaît, que l'on entend souvent, mais qui restent choquants. À cela s'ajoutent des campagnes d'affichage et des spots télévisés plutôt ébranlants, quoique réalistes, s'adressant à la fois aux témoins et aux victimes de violences conjugales.
Violences conjugales, parlez-en avant de ne plus pouvoir le faire, était la phrase de clôture d'un de ces spots en 2007. Il avait pour objectif d'encourager les femmes battues à s'émanciper de leur situation au travers d'un appel au 3919, Violence Femmes Info, une institution gouvernementale qui les aiderait dans leur démarche jusqu'au dépôt d'une plainte contre leur conjoint.
Pourtant, en 2012, la situation semble au point mort. Seuls 8% d'entre elles portent plainte chaque année. Similitude avec les victimes de viol, 10% se manifestent seulement. À l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre et du manifeste des 313 femmes violées publié dans le Nouvel Obs, la question des violences contre les femmes fait la une de l'actualité politique.
Touche pas à ma pote, une enquête réalisée par Colline Allier.
Le viol en France est puni par 15 à 20 ans de prison. Il est considéré comme un acte de barbarie au même titre que la torture physique.
Néanmoins, peu de victimes portent plainte contre leur agresseur. Et ceci pour plusieurs raisons.
74% du temps, Jérôme, selon les statistiques de viol femme information, la victime connaît en effet son agresseur, il fait partie de son entourage, plus ou moins proche, et dans un cas sur deux, il n'a pas utilisé la violence physique, la domination psychologique étant suffisante pour que la victime n'ose pas en parler, au risque de, par exemple, faire éclater une vie de famille. Ceci complique évidemment la tâche de la justice qui, lors d'une accusation, doit démontrer la véracité des faits, doit prouver que l'acte sexuel n'était pas consenti.
Les cas les moins discutés sont bien sûr ceux de viol avec violence.
Évidemment, là où le problème se pose, c'est quand les événements ne sont pas récents, que les mémoires sont brouillées et que la victime en perd de la crédibilité. Comme par exemple, le procès de la tournante de Créteil, examiné au mois de septembre dernier et qu'a subi Nina en 1999. Si son combat a abouti, elle ne conseillerait même pas à une victime d'aller porter plainte, c'est dire, et là je la cite, à cause donc du véritable cauchemar que sont les procès d'assises et les suspicions de rapports consentants.
C'est une des infamies du viol. La honte et la culpabilité retombent sur la victime plutôt que sur l'agresseur.
Pour remédier à ce phénomène, un manifeste a été publié le 21 novembre dernier, le manifeste des 313, écho au manifeste des 343 salopes de 1971, qui avait alors déclaré avoir avorté. En 2012, ces 313 femmes de 18 à 87 ans déclarent, elles, avoir été violées. De la joueuse de tennis Isabelle de Mongeau, à l'ancienne épouse de l'ex-premier ministre, Marie-Laure de Villepin, en passant par Sylvie Fouché, 52 ans, agricultrice, Corinne Gervais, 41 ans, cadre supérieur, ou Audrey Labisle, 18 ans, étudiante, elles ont toutes signé cet appel pour que la honte change de camp.
À l'origine du texte et première signataire, Clémentine Autain.
Après l'affaire des SK, des femmes ont osé parler, le voile s'est un peu levé. Je ne voulais pas qu'il retombe, explique-t-elle. Il faut en finir avec l'hypocrisie des images d'Épinal. Le viol est un fait social qu'il faut maintenant prendre à bras-le-corps.
C'est à la fois pour lever un tabou, mais surtout pour souligner l'ampleur du phénomène, une femme sur 10 est ou a été violée en France. Si l'on rajoute à cela les dégâts dus aux violences conjugales, la situation est clairement problématique.
Pourtant, ce n'est pas comme si rien n'était prévu. Des lois existent, mais elles sont mal adaptées, ne prennent pas en considération les risques que prennent les femmes qui accusent leur conjoint, par exemple. Et surtout, elles ne sont pas suffisamment ancrées dans les mentalités.
Il faut dire qu'elles sont assez récentes.
Oui, Jérôme, ce n'est seulement qu'à partir des années 90 en France que la plupart des lois existantes sur les violences conjugales, le harcèlement sexuel, tout comme la parité homme-femme au travail d'ailleurs, ont été votées.
Récentes et à l'efficacité toute relative.
À la suite de la journée de l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 25 novembre 2009, François Fillon déclarait que la lutte contre les violences faites aux femmes serait décrétée grande cause nationale pour l'année 2010. Sans grand succès, le nombre de décès n'ayant pas reculé, pas plus que le nombre de plaintes n'a augmenté cette année-là, même si des mesures phares ont bien été mises en place. L'ordonnance de protection en cas de violence vraisemblable instaurée par Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale de l'époque, a parfaitement fonctionné, par exemple, dans le département pilote de Seine-Saint-Denis.
Mais le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, au passage paritaire, a instauré un ministère des droits des femmes pour faire de l'égalité entre les genres une généralité. Cette année, ce sont aussi les 20 ans du 3919, le numéro d'urgence destiné aux victimes de violences conjugales.
Ainsi, pour la journée de l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 25 novembre dernier, François Hollande, Cécile Duflot et Najat Vallaud-Belkacem, la ministre du droit des femmes, se sont rendus dans un foyer d'accueil parisien pour femmes battues. François Hollande y a parlé d'un plan global, discuté le vendredi 30 novembre, dans le cadre d'un comité interministériel sur le droit des femmes, ce qui ne s'est pas produit depuis 12 ans. Il a pour volonté d'améliorer et d'appliquer partout sur le territoire la fameuse mesure instaurée par Roselyne Bachelot en 2010. Également de construire 5000 logements sociaux réservés à cette catégorie de population, de mieux former les personnels, également en charge de ces affaires, qu'il s'agisse des gendarmes, policiers, juristes, avocats. En outre, Najat Vallaud-Belkacem a parlé de l'instauration, d'ici la rentrée 2013, d'un apprentissage de l'égalité des genres à l'école, je la cite, « dès la dernière classe de maternelle jusqu'à la fin du primaire ». Le gouvernement entend donc mettre un terme aux violences faites aux femmes. Espérons que cette fois-ci, les mesures prises aient une véritable efficacité et que l'appel des 313 femmes violées ne soit pas oublié. Affaire à suivre donc.
Touche pas à ma pote, une enquête réalisée par Colin Allier. Et si on changeait d'échelle, si on prenait du recul ? Et si on regardait la politique européenne et la politique avec des yeux d'Européens ?
Sur le sujet des violences faites aux femmes, un tel changement d'échelle nous permet de nous rappeler que le 11 mai 2011, à Istanbul, a été signée une convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Il s'agit, au niveau européen, du premier instrument contraignant, offrant un cadre juridique complet pour la prévention de la violence, la protection des victimes, dans le but de mettre fin à l'impunité des auteurs de ces violences.
Sur le site internet du Conseil de l'Europe, dédié à cette convention, on peut lire ceci.
Aucune estimation pour l'Europe existe, mais de nombreux États membres commencent à multiplier les enquêtes pour mesurer l'étendue de la violence à l'égard des femmes au plan national. Bien que les méthodologies varient, une vue d'ensemble de ces enquêtes permet d'estimer que selon le pays, un cinquième à un quart des femmes sont victimes de violences physiques au moins une fois dans leur vie d'adulte et que plus d'un dixième d'entre elles subissent des sévices sexuels impliquant l'usage de la force. La majorité de ces actes de violence sont commis par des hommes dans leur environnement social immédiat, le plus souvent par des partenaires ou d'anciens partenaires.
Aujourd'hui, 18 pays, membres de l'Union européenne ou non, de la France à la Turquie, ont signé la convention. Celle-ci insiste beaucoup sur la prévention, en ce qu'elle peut sauver des vies.
Ainsi, les gouvernements qui acceptent d'être liés par la convention devront prendre les mesures suivantes. Former les professionnels qui sont en contact étroit avec les victimes. Mener régulièrement des campagnes de sensibilisation. Faire en sorte d'inclure dans les matériels pédagogiques des sujets tels que l'égalité des sexes et la résolution non violente de conflits dans les relations interpersonnelles. Mettre sur pied également des programmes thérapeutiques pour les auteurs de violences domestiques et pour la délinquance sexuelle. On voit ainsi que la mesure annoncée par François Hollande n'est qu'une adaptation de cette convention.
Mais l'intérêt de la Convention réside également dans l'évolution judiciaire qu'elle implique.
Elle définit et pénalise en effet les diverses formes de violence à l'égard des femmes, et les États signataires doivent, éventuellement, si ce n'était pas le cas, introduire ces nouvelles infractions et crimes que la Convention définit. Parmi lesquels on peut citer la violence psychologique et ou physique, la violence sexuelle et le viol, la persécution, le harcèlement, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, l'avortement ou la stérilisation forcée.
On le voit, un cadre européen existe. Reste à intégrer ces dispositions à l'échelon national.
Parce que l'Union européenne, ce n'est pas que des technocrates bruxellois incompréhensibles ou une crise de la zone euro, parce que l'Union européenne mérite mieux que l'image lointaine et souvent négative qu'en donne la plupart des médias traditionnels. Jérôme, tu nous présentes régulièrement ta chronique Vue d'Europe. Alors tu as décidé, Jérôme, de t'intéresser cette fois-ci au cas du Royaume-Uni, alors pays qui a adopté le 8 mars 2012 un plan d'action pour lutter contre tous les aspects de la violence contre les femmes. Alors il contient 100 actions de lutte contre ces violences, alors que pour la seule année 2011, plus d'un million de femmes ont été victimes de violences conjugales en Angleterre et au Pays de Galles. Environ 400 000 ont été agressées sexuellement et 80 000 ont été violées. Alors le texte adopté par le gouvernement britannique s'inspire grandement de la Convention européenne dont nous parlions à l'instant, et voir le Royaume-Uni, par les temps qui courent, adopter sans critique une décision ou une convention européenne est une chose assez rare pour être soulignée. Surtout dans le contexte actuel, où on évoque très sérieusement outre-Manche une sortie de l'Union européenne. Et c'est de ça, Jérôme, dont tu veux nous parler, n'est-ce pas ?
Tout à fait, Thomas. Être ou ne pas être en Europe ? Telle est la question qui se pose aux Britanniques depuis plusieurs années, mais plus singulièrement depuis un mois, où le débat fait rage sur toutes les lèvres outre-Manche. On connaît depuis longtemps la situation particulière de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Poids lourd du point de vue politique et économique, mais toujours absent des principales réalisations de la construction européenne. Un pied dedans, un pied dehors. Mais elle se demande désormais s'il ne faut pas carrément mettre les deux pieds dehors. C'est Daniel Cohn-Bendit, encore lui, qui a mis le feu aux poudres début novembre en assénant, sans langue de bois, ce que beaucoup d'autres parlementaires européens pensent tout bas, et en se prononçant ouvertement en faveur d'un référendum sur l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union. « Je suis pour qu'une fois, un jour ou l'autre, on organise un référendum en Grande-Bretagne. Ils doivent décider s'ils deviennent le 51e État des États-Unis ou s'ils sont membres de l'Union européenne. » Et de déplorer l'attitude des travaillistes britanniques qui font monter les enchères face à leurs adversaires conservateurs au petit jeu « plus eurosceptique que moi, tu meurs » pour mieux séduire une population qui connaît une crise de confiance toujours grandissante vis-à-vis de l'Union. Il faut dire qu'ils ont eu fort à faire pour rivaliser. En mars dernier, David Cameron, Premier ministre britannique, a refusé de signer le traité budgétaire européen concocté par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, et à peine retouché depuis par François Hollande. Et en juillet, dans la perspective des prochaines élections législatives de son pays, pour se faire réélire, il a même évoqué la possibilité d'un référendum en Grande-Bretagne pour, je cite, « redéfinir les liens qui unissent son pays à l'Union européenne ». Même si lui-même n'est pas personnellement favorable, dit-il, à ce qu'on appelle outre-Manche le Brexit, comprenez le British Exit. Ce faisant, il mettait à mal la coalition inhabituelle actuellement en place au Royaume-Uni entre les Tories, majoritairement eurosceptiques, et les Lib Dems, les libéraux-démocrates, de Nicholas Clegg, son vice-premier ministre, la seule formation politique encore pleinement europhile du pays, qui s'était entendue en début de législature sur un statu quo sur les affaires européennes. Les uns étant plutôt europhiles, les autres plutôt eurosceptiques. Or, le 18 novembre, le journal britannique The Observer publiait les résultats d'un sondage. 56% des sujets du Royaume voteraient pour le retrait de l'Union, et le petit parti UKIP, qui milite pour l'indépendance nationale, n'a jamais été aussi populaire. Si un tel référendum devait être organisé, le risque serait donc grand de voir la clause de sortie prévue pour la première fois par le traité de Lisbonne en 2009, être mise en œuvre. Et voilà que, lors du vote du dernier budget européen pour les années 2014 à 2020, le 23 novembre dernier, David Cameron a précipité les choses en brandissant son veto contre un budget qu'il jugeait trop élevé, de 1 060 milliards d'euros, alors qu'il ne souhaitait pas dépasser 930 milliards sous la pression des contribuables britanniques. Pourtant, c'est déjà un budget très faible, seulement 1% du PIB de l'Europe, et en recul par rapport aux 7 dernières années. Mais soumettant ses propres compatriotes à une cure d'austérité sans précédent en Grande-Bretagne, sa position s'explique au regard de décisions purement nationales. Je veux voir une rigueur et une discipline similaires à la nôtre dans l'Union européenne, a-t-il déclaré. Même permettre une hausse du budget égale à l'inflation est une position généreuse, compte tenu des efforts pour réduire les budgets nationaux, a ajouté Nick Clegg lors de sa rencontre avec Jean-Marc Ayrault, lequel a concédé que leur point de vue était encore éloigné. Quoi qu'il en soit, au terme de la rencontre entre les dirigeants européens, l'échec des négociations était patent. Il semble bien qu'ainsi, un mouvement vers la porte de sortie ait été enclenché, ou tout au moins, ce malheureux épisode a-t-il donné l'image déplorable habituelle désormais d'une Europe qui part un peu en lambeaux. Après les menaces de sortie monétaire de la Grèce, qui vient d'ailleurs une nouvelle fois de se voir effacer une partie de son ardoise de dette, et d'autres pays du Sud comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, on ne s'attendait pas à voir un tel signal venir du Royaume-Uni. Osons donc le dire, la sortie du Royaume-Uni serait un affaiblissement pour l'Europe, qui perdrait un membre très puissant, mais aussi un désastre pour l'influence du Royaume-Uni dans le monde et un désastre pour l'économie britannique, selon les mots mêmes de l'ancien ministre de l'économie, Kenneth Clark. Quiconque a fait un peu d'histoire, comme Thomas,
et Louis aussi,
sait bien que les relations entre le vieux continent et la perfide Albion n'ont pas toujours été excellentes. Mais nous avons su nous unir quand l'essentiel était en jeu, par exemple dans la lutte contre le régime nazi. Le signal envoyé par une sortie du Royaume-Uni serait assurément celui d'une Europe qui n'a pas été soudée de manière indéfectible par le traumatisme de la guerre. Certes, le général de Gaulle lui-même avait refusé par deux fois, en 63 et en 67, l'adhésion de la Grande-Bretagne à la communauté économique européenne, y voyant un cheval de Troie américain. Et il a fallu attendre Pompidou pour que cela se fasse en 72, et que le train, donc, ait été pris en cours de marche. Certes, un divorce permettrait à l'Europe de poursuivre son intégration fiscale et sociale plus facilement, et à Londres de poursuivre son entreprise de libéralisation de la City. Mais à quel prix ? Celui de renoncer au chemin parcouru ensemble ? J'aimerais quand même terminer sur une note d'espoir qui nous vient directement du Royaume-Uni, d'une figure généralement appréciée en France et qui compte, du moins en Europe, celle de Tony Blair, qui était favorable, rappelons-le, à l'adoption de l'euro et qui montre que tous les travaillistes ne sont pas sur la même longueur d'onde lorsqu'il déclare « Cela constituerait une erreur monumentale que de nous détourner de l'Europe et de perdre ainsi une position cruciale de pouvoir et d'influence. » Reprise en cela par son successeur à la tête du Labour, Ed Miliband. Nous constatons la profonde inquiétude de nos partenaires européens qui pensent que la Grande-Bretagne est dans la salle de départ. Pour ceux d'entre nous qui, comme moi, dit-il, sommes passionnément attachés à notre place dans l'Union européenne, nous ne pouvons rester silencieux. Je ne laisserai pas la Grande-Bretagne se diriger, tel un somnambule, vers la sortie de l'Union européenne. Alors, l'Anglais renoncera-t-il à se bouter de lui-même hors d'Europe ? Let's wait and see.
Merci pour cette note d'espoir et cette note britannique. Merci Jérôme. Sans langue de bois, vous le savez, c'est le choix d'entendre s'exprimer toutes les opinions politiques. Place donc maintenant au deuxième éditorial de l'émission et à la plume de Louis Dubost. Bonjour Louis.
Bonjour Thomas.
Alors, tu nous parlais lors de ton dernier éditorial du regain d'antisémitisme en France, tu l'analysais. Nouvelle émission, nouveau sujet, tu t'es intéressé cette fois-ci à la polémique suscitée par la biographie de Jean-Marie Le Pen. Le Pen, une histoire française, écrite par Philippe Cohen et Pierre Payan. On t'écoute.
Vulgaire, aviné, indifférent à sa famille et à ses amis, je cite ici Marianne, mais aussi raciste, veule, brutal et misogyne, bourreau, antisémite, voleur, rapia, mystificateur, opportuniste, pétainiste enfin, négationniste bien sûr, et surtout mauvais français. Le Pen, père fouettard de la République, essuie depuis 10 jours les dernières salves meurtrières que la gauche française, tout à sa joie de revanche sanguinaire, ne réserve pas au baron de l'UMP. Alors non, nous ne nous appesantirons pas sur les malheureux déboires du parti gaulliste, car j'ai toujours scrupule à tirer sur une ambulance. Attendons que M. Copé rassemble ses troupes, fasse front, nous aurons alors loisir de frapper vite et fort, mais dans l'honneur. Je laisse à une certaine gauche le rôle de chacal qui lui va si bien. Cette gauche qui n'est jamais ici qu'un choix par défaut fait la bouche amère, dans la honte de se prêter encore au jeu pipé de l'alternance. Cette gauche donc qui, faute d'une voix forte, d'une ligne claire, d'une famille unie, s'est inventée des ennemis pour mieux serrer les rangs. Elle bombe le torse, prend des airs de Saint-Just, joue la vierge effarouchée devant les magouilles minables de l'opposition, et, en vieille Cassandre sénile, invoque la République en péril, ployant sous les assassins de la démocratie, que nos amis socialistes confondent souvent avec les partisans du pluralisme exerçant leur liberté de parole. Philippe Cohen, journaliste à Marianne, et Pierre Péan, habitué du Monde et de Radio France, ont signé chez Robert Laffont une biographie. Le Pen, une histoire française, tu le rappelais Thomas. Nous ne saurions soupçonner les auteurs d'une quelconque accointance avec l'extrême droite, et l'enquête, sans, c'est vrai, jamais tomber dans le procès en sorcellerie, n'est pas tendre pour le fondateur du Front National. Et je vous rassure, ce n'est pas non plus ma volonté de chercher à minimiser les ambiguïtés idéologiques et accointances suspectes de ce vieux monsieur retiré de la politique, ce dont, personnellement d'ailleurs, je me félicite. Mais la complexité du personnage méritait un travail d'investigation apaisé. Farouchement anticommuniste, mais atlantiste libéral dans ses jeunes années, puis partisan de l'État-providence, d'abord favorable à une large intégration des Maghrébins dans un contexte de guerre coloniale, puis retranché derrière une rhétorique anti-immigration désormais bien rodée, connu pour l'ambivalence de ses positions sur l'homosexualité, Le Pen, le menhir, comme aime à le surnommer ses fidèles, n'est pas monolithique, mais faillé et subtil. Tout esprit délié s'entend à reconnaître là une évidence et je n'ai aucune prétention à faire de révélation. Mais alors, puisque nous sommes entre gens honnêtes et de bonne compagnie, comment comprendre l'étrange levée de bouclier à laquelle se heurtèrent messieurs Cohen et Péan ? Serait-ce de n'avoir pas accordé plein crédit aux allégations qui dressaient le portrait d'un Jean-Marie Le Pen tortionnaire en Algérie ? Mais, enfin, malgré de nombreux procès, jamais aucune preuve n'a pu nourrir l'accusation, et ma foi, si chacun est libre de se faire en son âme et conscience son avis, la présomption d'innocence protège chaque citoyen. J'y suis d'ailleurs personnellement très attaché et refuse de l'avoir remise en cause pour satisfaire la vindicte de politique en mal de sensation. Les journalistes ne sont pas les juges, nul n'en doute. C'est là un faux débat qu'on entretient à dessein de cacher la cause réelle du ourvari suscité par l'ouvrage de Cohen et Péan. Le Front National, épouvantail désigné de la gauche depuis plus de 30 ans, se révèle être pourtant, arguent les auteurs de la biographie polémique, l'improbable progéniture des objecteurs de conscience socialistes. En effet, dès 1984, la création d'SOS Racisme, succursale du Parti Socialiste, avait mis sous les projecteurs et grossi l'importance d'une jeune structure politique, hétéroclite et fragile. Une dynamique est alors lancée, et la même année, le Front National bondit à 11%, joue à jeu égal avec le Parti communiste français, qu'étreint François Mitterrand pour mieux l'étouffer. La proportionnelle, opportunément instaurée en 1986, permet à 35 députés FN, dont Le Pen, de faire une entrée tonitruante grâce à la gauche au Palais Bourbon et de contenir les poussées d'une droite plus divisée que jamais. Les législatives de 88 voient l'élection de Yann Pia dans le Var sous l'étiquette FN, grâce au soutien de l'UDF, l'ancêtre du Modem, puis de Marie-France Tirebois à plus de 60% l'année suivante en Eure-et-Loir, alors que dans les Bouches-du-Rhône, Jean-Claude Godin, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte sur le parti et la flamme tricolore pour conquérir Marseille. Une vaste alliance de la droite plurielle est envisageable. Mais, coup de tonnerre, en mai 90, un cimetière juif est profané dans le Vaucluse à Carpentras. Fait divers sordide, mais somme toute résiduel, chaque année, plus de 500 cimetières sont l'objet de malveillance. Peu importe, le chef de l'État s'empare de l'occasion, organise un très symbolique défilé entre République et Bastille, du jamais vu pour un président, accuse avant même l'ouverture d'une enquête le Front National d'être l'auteur du raid nocturne à Carpentras. Le travail de la police montrera qu'il n'en est rien, mais c'est trop tard. Moins de 2 mois après l'affaire, en juillet 90, la loi Guesso, du nom de son rapporteur, député communiste, votée dans un climat d'indignation générale impropre à la réflexion, marque du sceau de l'infamie tous ceux qui ont pu se rapprocher de l'extrême droite. L'axe UDF-FN est brisé, Jean-Marie Le Pen, désormais infréquentable, entraîne dans sa retraite un électorat de droite déboussolé, le Parti communiste est à terre, RPR et UDF s'enferrent dans les guerres fratricides, le FN s'embourbe dans une impasse. François Mitterrand règne seul sur un tas de ruines. Le maître d'œuvre véritable de cette recomposition des forces, qui désoriente la droite, bouscule aujourd'hui la gauche, n'est donc finalement pas tant Jean-Marie Le Pen que le Parti socialiste lui-même. et la révélation, abondamment étayée de cette improbable filiation refoulée, fait celle du livre incriminé et motive, à n'en pas douter, les attaques dont il est la cible. Mais bien Malaki ne profite jamais. Aussi, sous les hauts cris hypocrites du méniste en peau de lapin, il me semble deviner la peur panique de devoir reconnaître enfin dans le Front National, puissant parti d'opposition, cet enfant naturel qui a bien grandi malgré l'adversité, qui, après les provocations adolescentes, indignes et puériles, atteint dans la force de l'âge sa maturité politique et réclame lui aussi désormais, au seuil de nouvelles échéances électorales, une part de l'héritage.
Merci Louis pour ton éditorial.
Dans la rubrique Droit de suite, nous vous tenons informés de l'évolution de sujets et de questions que nous avons pu traiter dans de précédents numéros. Parce que le traitement de l'information ne devrait pas se résumer à ce flux tendu où valsent sans retour les sujets.
Ainsi, dans une précédente édition de notre grand journal politique, nous vous parlions de la fronde du Sénat et de cet étonnant front UMP-PCF qui avait déjà fait retoquer deux textes, la réforme du budget 2012-2017 et la loi Brottes sur l'énergie.
Rappelons que la majorité au Sénat, passée à gauche, première historique en septembre 2011, tient à un fil, ou plutôt à six. Six voix d'avance. Voilà donc la majorité de gauche au Sénat. Majorité dans laquelle sont inclus les sénateurs socialistes, radicaux et écologistes, qui font partie de la majorité présidentielle actuelle, ainsi que les sénateurs communistes, qui ne font pourtant pas partie de la majorité présidentielle à proprement parler, même s'il leur arrive fréquemment de voter les mêmes textes que la majorité et de rejoindre sur de nombreux points le gouvernement.
Or, en ce moment, on ne peut pas dire que les sénateurs communistes soient un exemple d'allégeance au gouvernement, à tel point qu'ils sont même accusés par Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement Productif, d'être maintenant clairement dans l'opposition.
Certains parlent même d'une alliance avec l'UMP pour déstabiliser le gouvernement original, réfuté par les sénateurs communistes eux-mêmes.
Nous ne sommes pas dans l'opposition, a fait valoir Marie-Georges Buffet. Nous sommes à gauche et nous voulons que la gauche réussisse.
Pas dans l'opposition, peut-être. Pourtant, les sénateurs communistes ont encore fait parler d'eux mercredi 28 novembre en s'abstenant lors du vote du volet recettes du premier budget du quinquennat Hollande, prévoyant 24 milliards de hausse d'impôts.
Avec cette abstention, Jérôme, le projet a donc été mis en échec par 165 voix contre 156, et ce, avant même la fin de son examen.
Pas de panique néanmoins au gouvernement.
Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a certes regretté sur BFM TV que le parti communiste joigne ses voix avec celles de la droite, mais il a rappelé que l'Assemblée nationale aurait le dernier mot.
De fait, le texte repartira pour une nouvelle lecture à l'Assemblée, puis au Sénat, avant que les députés n'aient finalement le dernier mot. À quoi sert donc l'abstention ou l'opposition des sénateurs communistes ?
Nous ne votons pas pour ce qui nous paraît contraire à nos engagements et aux chances de la réussite de la gauche, se justifient les communistes dans une lettre ouverte, où ils reprochent au gouvernement de n'avoir pas vu, ou plutôt pas voulu voir, leur rôle de charnière au Sénat.
Les sénateurs communistes ne sont certes pas dans l'opposition, mais ils tiennent à marquer leur différence avec la majorité présidentielle afin de capter les voix des déçus éventuels du Parti socialiste et de la politique Hollande lors des prochaines échéances électorales. En vue, les municipales de 2014 notamment.
Gageons que la fronde au Sénat soit loin d'être terminée. Alors rendez-vous très prochainement pour un nouveau Droit de suite.
On termine, comme d'habitude, sur une note plus légère.
Si Marie-Ève n'a pas pu être présente à l'enregistrement de cette émission, elle a quand même pensé à vous, chers auditeurs. Elle vous a trouvé un sujet de fin d'émission dont elle a le secret, léger et subtil, comme à son habitude.
Même absente, son ombre plane dans le studio.
Exactement, Jérôme. Hommage à Marie-Ève. Son professionnalisme, son abnégation, sa belle voix suave, un brin autoritaire, travailler cet été à RCF, régler trois tons plus bas pour devenir un objet de fantasme à faire pâlir toutes les Laura Adler et autres Caroline Dublanche. Mais Marie-Ève, c'est surtout un sens aigu de l'analyse politique et la volonté de mettre l'accent sur des sujets cruciaux dont on parle trop peu. Rappelez-vous, il y a maintenant un mois, attention, séquence interdite aux moins de 18 ans.
Nous allons vous montrer les liens entre écologie politique et érotisme.
Vous voyez, quand je vous parlais de la voix suave et du choix pertinent des sujets de fin d'émission de notre amie alsacienne. Mais Marie-Ève, C'est avant tout une conscience professionnelle chevillée au corps. Ce qui guide l'action de Marie-Ève, c'est la volonté d'informer les auditeurs et de dénoncer les manipulations et les mensonges du monde politique, sans concession, coûte que coûte, loin de ces journalistes racoleurs qui ne pensent qu'à faire de l'audience.
Au passage, vous apprécierez le suspense que nous créons, la manière que nous avons de vous tenir en haleine, le désir que nous faisons naître en vous, parce qu'au fond, nous savons très bien que vous n'écoutez cette émission que pour le dernier sujet, et que même, avouez-le, il vous arrive de bouger le curseur du player après l'annonce des titres pour directement écouter le dernier sujet.
Tout cela pour faire de l'audience. Tu sais quoi, Marie-Ève ? Ben, tu me dégoûtes.
Eh ben, j'assume.
Bon, alors, pour le professionnalisme, on repassera. Hommage donc plutôt à la ligne éditoriale de Marie-Ève ? Oui, centrée sur la ceinture. Bel objet au demeurant, pour lequel elle semble avoir une vraie fascination, faisant en effet osciller chaque sujet de fin d'émission, un coup en dessous, un coup au-dessus, justement de la ceinture. Pour Marie-Ève, il n'y a pas de tabou donc. On doit pouvoir parler de tout en toute liberté et sans langue de bois. Du rapport Jospin comme des cravates de François Hollande ou du lien entre écologie politique et érotisme, pour citer, vous l'aurez compris, les deux derniers sujets de fin d'émission qu'elle nous a concoctés.
Marie-Ève, c'est donc un esprit libre.
Et sinon, je vends aussi des godemichés sur Internet.
Une séquence réalisée évidemment sans aucun montage et hontée de la part de Thomas.
Aucun.
Je pense que Marie-Ève aura apprécié ton hommage. Et il est temps de passer au sujet qu'elle vous a préparé, chers auditeurs, pour cette fin d'émission. Suivant le yo-yo ceinturique de la ligne éditoriale de notre ami, nous quittons donc les cravates de François Hollande pour cette fois-ci parler de ses fesses.
Pantalon baissé, accroupi, le président François Hollande crève l'affiche du 20e anniversaire des Caganers, ces traditionnels santons chieurs des crèches de Noël de Catalogne.
Synonyme de fertilité dans une société de tradition agricole, les Caganers étaient à l'origine, au XVIIIe siècle, des figurines en terre cuite représentant un paysan catalan accroupi dans son champ. En bonne place dans les crèches catalanes, ces santons ont connu un regain de popularité ces dernières années avec l'introduction de figurines faisant prendre la pose aux grands de ce monde.
Les Caganers ne prétendent pas se moquer des personnages ou de leurs fonctions, ben oui tu parles, mais leur rendre hommage, souligne l'entreprise Allos Plat, principal atelier de fabrication de Caganers, dans un communiqué de présentation de ses nouvelles créations.
Et parmi ces nouvelles créations figure notamment François Hollande, tout comme Mario Monti.
Ils rejoignent ainsi Angela Merkel, Barack Obama ou encore le pape Benoît XVI, parmi les quelques 300 grands de ce monde représentés ainsi, pantalons baissés et excréments bien visibles.
Les fêtes de Noël approchent. Voilà donc une belle suggestion de décoration, voire même une délicate idée de cadeau.
Et puis surtout, c'est quasiment un geste solidaire et écologique puisque, et j'aime beaucoup la précision de l'article que Marie-Ève, je le rappelle, a repéré pour vous, je cite... Les santons catalans sont fabriqués de manière totalement artisanale, moulés un à un, séchés, cuits et peints à la main. C'est sûr que ça change tout. S'ils avaient été produits industriellement, on aurait pu s'insurger, souligner le mauvais goût, la vulgarité et l'irrévérence de tels santons. Mais là, sachant qu'ils sont fabriqués de manière totalement artisanale, moulés un à un, séchés et cuits, enfin peints à la main, ça change tout.
Rouler sous les aisselles aussi ?
Non.
Bref, un article léger de saison pour finir l'émission.
Oui, et surtout un grand merci à Marie-Ève, qui pourra ainsi vérifier l'adage selon lequel les absents ont toujours tort.
Notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de l'émission.
Merci à Xavier et Irène, à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire.
Merci également à Colline et Mathilde pour leur aide dans la préparation et la réalisation de cette émission.
Merci à toi, Jérôme, d'avoir remplacé Marie-Ève.
De rien.
Qu'on embrasse fort, elle est arrivée en cours d'émission, elle est de l'autre côté de la vitre, dans la régie. Qu'on embrasse fort après toutes les horreurs que j'ai pu lui attribuer, mais dont je suis sûr et j'ai vu, elle s'est amusée. Autant que moi, j'ai pu rire en imaginant, lors de la préparation du script de l'émission, sa tête, quand, confortablement installée pour écouter l'émission, à l'enregistrement duquel elle n'a pas pu participer, elle en arrivera au dernier article.
Marie-Ève, qui, sauf si elle a fait une attaque en écoutant cette émission, reprendra normalement sa place lors du prochain numéro du Grand Journal Politique.
Merci enfin à nos deux éditorialistes de la semaine, Louis et Amos.
N'oubliez pas d'aller du côté de la page En Plus pour retrouver les meilleurs sujets de l'émission en version écrite et originale.
Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour le 3e numéro de Sans langue de bois, paroles de militants. Tatiana Fauconnet évoquera avec des militants de toute sensibilité la question des étrangers en France et plus largement des frontières.
D'ici là, on ne change pas les bonnes habitudes. Surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.